Les podcasts de l'Institut de France. L'entretien de la semaine. Rencontre avec un académicien.
Loin de se limiter à l'étude des civilisations anciennes, l'archéologie façonne aussi les relations entre les nations. Elle est en quelque sorte un levier de diplomatie d'influence. C'est tout l'objet du dernier livre de Nicolas Grimal, secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Dans L'archéologue et le diplomate, il retrace l'histoire de cette alchimie singulière, de l'expédition d'Égypte de Napoléon à la mise en place sous Charles de Gaulle d'un modèle unique au monde. Il explore la manière dont la France a su conjuguer recherche archéologique et stratégie diplomatique, l'ensemble tissant un réseau qui encore aujourd'hui irrigue la coopération culturelle internationale. L'archéologue et historien présentera ce nouveau livre mardi prochain à la librairie de l'Institut. Il est aujourd'hui au micro de l'Envie de Savoir pour en parler. Merci beaucoup, Monsieur Grimal, d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour à vous.
Bonjour à vous, merci de me recevoir.
Alors Nicolas Grimal, vous explorez dans ce livre les liens entre l'archéologie et la diplomatie. C'est un projet que vous avez maturé pendant des années, qui tient une place à part dans votre bibliographie. Dedans, vous déroulez l'histoire de notre système archéologique français, assez unique dans le monde. C'est toute son originalité que vous avez voulu souligner dans ce livre ?
Son efficacité aussi. L'originalité, oui, mais l'originalité, elle s'explique comme beaucoup de choses par l'histoire. Vous savez, c'est le souci de l'autre et de la connaissance de l'autre et de la culture de l'autre, ça remonte à la plus haute antiquité, quand le roi Khéops envoyait des missions dans le désert oriental, enfin occidental, pardon, et oriental aussi, quand il envoyait des expéditions, c'était, il ne savait pas pourquoi, c'était pour découvrir le monde, ça ne débouchait pas forcément sur des relations intéressées, de type économique ou politique ou autre. Et puis au fil du temps, il est évident que toute nation a été obligée de tenir compte de ses voisins et d'établir des règles du jeu. On ne dirait pas aujourd'hui, on a plutôt l'impression aujourd'hui que c'est en train de changer tout ça, de vaciller. Mais la France, qui s'est pensée à l'échelle du monde, elle aussi à un moment, ben, a dû trouver des outils qui lui permettaient d'appréhender le monde. Et la connaissance est le premier outil.
Alors, si on remonte un peu plus loin dans l'histoire, Napoléon fut en quelque sorte un précurseur de ce modèle français. Il a eu l'idée, lors de son expédition en Égypte, de faire venir des historiens, des scientifiques avec lui. C'était nouveau pour l'époque ?
C'était nouveau sans l'être. Déjà, l'Ancien Régime a envoyé des expéditions généralement maritimes. Dans ces expéditions, les explorateurs, entre guillemets, faisait à la fois du commerce quand il le pouvait, prenait possession s'il le pouvait des terres, établissait des relations, donc avait tout un jeu diplomatique, et en même temps découvrait et aidait à connaître les cultures qui étaient peu connues ou connues par ouï-dire, dont on se disait qu'éventuellement ce serait intéressant d'aller avec. On connaît la Pérouse, on connaît tous ces grands découvreurs qui ont lancé un mouvement qui a été en France, qui a reçu un écho important, mais en Grande-Bretagne aussi, et qui a été relayé par, tout de suite par des premiers groupements savants, qui sont devenus des sociétés savantes par la suite. Et à ce moment-là, si vous voulez, si on est à la fin du XVIIIe siècle, on se rend compte que des expéditions qui sont lancées vont jeter des germes qui ne feront que prospérer au XIXe, où là, les choses, effectivement, s'installent plus, s'installent après la Révolution, je suis d'accord avec vous, mais c'était déjà en germe, oui. ça prospérait déjà, si vous voulez.
Et en parlant de sociétés savantes, au tout début du XIXe siècle, l'Institut de France contribue aussi à cette forme de diplomatie culturelle, puisque des savants issus de plusieurs académies, dont l'Académie des inscriptions et belles-lettres...
Qui ne s'appelait pas encore aussi.
Non,
c'est plus compliqué que ça.
Allez-y.
C'est-à-dire que dès avant le premier consul, puisque l'empereur lui-même n'a pas été vis-à-vis de l'Institut moteur, il l'a été en tant que premier consul, Le premier consul avait un projet qui était totalement belliqueux, qui n'avait rien à voir avec les sciences, avec la connaissance. Il fallait en découdre avec l'anglais. C'était le moment de la grande compétition entre deux empires qui essayaient de se développer, l'Empire britannique et l'Empire français. Et l'Empire britannique, avec une visée sur ce qu'on appelait les Indes, donc en fait le continent indien, le sous-continent indien, et l'idée qu'avait Bonaparte, c'était d'attaquer les Anglais, le fameux ennemi héréditaire. Il suffit de suivre le tournoi des destination. Le jour où la France joue contre l'Angleterre, c'est le crunch. Hein,
bon. Encore donc, aujourd'hui, oui.
L'idée, c'était de contrer et en coupant les voies d'accès. Donc, pour ce faire, l'Égypte était extrêmement importante, parce qu'il y avait ce qui n'était pas encore le canal de Suez, qui allait le devenir après, mais il y avait la mer Rouge et le transit vers les Indes. Donc, le jeune Bonaparte, qui était quand même général victorieux, auréolé de gloire et danger politique très fort pour les gouvernements qui se succédaient alors à Paris, lui n'avait qu'une ambition, c'était d'en découdre avec les Anglais. Donc il a embêté l'homme chargé des affaires étrangères, Talleyrand en particulier, jusqu'à ce qu'il obtienne l'autorisation de piloter une armée d'Orient dont l'objectif était d'aller porter la guerre là où les Anglais essayaient de s'implanter. Alors, la grande astuce, ça a été que cette expédition a été augmentée, si je puis dire, de l'apport du siècle des Lumières. C'est-à-dire qu'il n'était plus question uniquement d'aller se battre, mais il fallait faire un relevé complet, scientifique du pays. Et l'équipe qui part, les fameux savants, c'était des ingénieurs en fait, ils partent avec Napoléon, ils vont faire uniquement du relevé, c'est-à-dire qu'ils vont noter les mensurations de l'Égypte, essayer de résoudre des problèmes astro-mathématiques comme les méridiens, etc. Ils vont essayer de donner une image la plus complète possible. Donc, ils arrivent, ils viennent... Alors, les antiquités font partie de ce qu'ils vont relever, mais c'est secondaire. Dites-vous que les gens qui font ce qui sera la future description de l'Égypte ne savent pas lire les hiéroglyphes. Donc, ils relèvent des monuments... Et ils relèvent du texte, mais alors ce qui est extraordinaire, quand vous voyez après la façon dont c'est relevé, c'est assez précis, c'est plutôt bien fait. On utilise encore certains relevés de la description de l'Égypte qui sont faits en dehors de toute notion même d'égyptologie. Et ça a été un grand apport, parce que l'expédition militaire a été un désastre. Les Anglais ont battu à plate couture les Français, malgré les succès extraordinaires, la bataille des pyramides, ça n'a pas tenu le coup, mais est resté les caisses dans lesquelles les notes de l'expédition d'Égypte se trouvaient. Il y a eu des moments terribles, parce que les Anglais, évidemment, voulaient s'emparer de tout, y compris du travail scientifique. Alors là, il y a des déclarations, comme on ne savait en faire qu'en France. « Monsieur, si vous volez cela, vous serez comptable devant la postérité. » Enfin bref, des choses extraordinaires qui ont fait que finalement, la France est arrivée à récupérer presque tout. La fameuse pierre de Rosette qui va servir à Champollion pour déchiffrer le fameux trilingue qui va lui permettre d'établir définitivement sa lecture des hiéroglyphes, les Anglais l'ont gardée. Ils l'ont gardée. Et si vous allez encore aujourd'hui au British Museum, où elle est exposée, si vous avez la possibilité de contourner la vitrine et d'aller voir le dos, au dos vous avez écrit « Taken from the French Army ». C'est vous dire que notre relation amicale a des racines profondes. Et ça a été une prise de guerre parce que, sans savoir exactement la valeur scientifique de cet objet, les Britanniques ont compris qu'ils avaient là un monument très emblématique et qui pouvait justement conforter leur mainmise. Mais alors, l'expédition de Bonaparte, on connaît la suite, hein, mais ça a été très long. Il faut attendre la deuxième décade du 19e siècle pour que la description soit totalement publiée. Bon, c'est une longue histoire, ça mériterait à soi seul...
Aussi une émission à part entière.
Une émission, c'est pas l'idée. Mais ça donne un mouvement qu'on va avoir ensuite dans le 19e siècle, avec des expéditions moins connues, alors dans lesquelles le muséum... Et généralement, volontiers le promoteur. Par exemple, Alcide d'Orbigny. Si vous demandez aux gens qui étaient Alcide d'Orbigny, normalement, ils vous regardent avec des grands yeux. En fait, c'est un très grand entomologiste qui est parti faire, mais seul, la même chose en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Et il a, pendant des années, parcouru les pays, noté, il en est sorti une énorme somme, et une bonne partie des collections, qui sont au Muséum d'Histoire Naturelle. Et si vous allez, ce que je vous souhaite, en Argentine un jour, et que vous visitez le musée de La Plata, qui est à peu près comme était le muséum au XIXe siècle, c'est extraordinaire, vous verrez qu'Alcide d'Orbigny, c'est le grand homme. Il a son nom en médaillon sur la façade, etc. Parce que, et ça a été la marque de fabrique des Français, Alcide d'Orbigny ne venait pas commercer, ne venait pas guerroyer, mais il venait étudier, comprendre et relever. Et ça a été perçu, et ça l'est encore, dans toute l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, comme la marque de fabrique de notre pays. Notre pays est un pays qui, dans la foulée des Lumières, de la liberté, de toutes ces idées généreuses, est un pays qui fait progresser la connaissance de l'humanité. C'est là-dessus, c'est sur ce terreau-là que s'est appuyée la diplomatie française qui utilise l'archéologie. Et ça, on l'a vu en particulier au moment de l'expédition de Morée et au moment du combat de libération de la Grèce.
La Grèce fait partie de ces premiers terrains d'exploration. On a parlé de l'Égypte, mais il y a cette fameuse expédition
mais
de Morée.
Vous avez, il faut bien voir que l'indépendance de la Grèce par rapport à la Sublime Porte, au pouvoir ottoman, a suscité en France des mouvements d'opinion extrêmement forts. Jusque dans la littérature, il y a de célèbres œuvres littéraires qui chantent justement l'héroïsme des Grecs, qui chantent... Et donc, l'action des Français et la création d'un poste fixe, qui a été l'École française d'Athènes...
En 1846,
oui. Oui, qui n'avait rien à voir avec l'archéologie au départ, mais qui diffusait la culture française. Eh bien, cette prise de position a fait que la France a gagné une position très particulière, puisqu'elle était dans le corps expéditionnaire, puisqu'il y avait... Bon, il y a eu tout cet habillage, si je puis dire, à la fois humain et belliqueux, et qui donc, aux dépens de l'Empire ottoman, a assis la présence des Français, aussi des Britanniques, etc., avec toujours ces compétitions entre...
Bien sûr, entre empires.
Voilà, qui se sont manifestées à ce moment-là. Mais cette émulation, au-delà des frictions politiques, militaires et économiques, a encouragé notre pays à avoir une politique plus dynamique, justement, envers des pays, on dirait aujourd'hui émergents. À l'époque, le terme n'était pas reçu, mais c'était un petit peu ça. Et la Grèce était à ce moment-là un pays émergent, très ancien, et qui retrouvait ses racines, puisque la chute de celui qui était perçu comme un envahisseur, du Turc, a été accompagnée et a été légitimée par un retour aux valeurs de la chrétienté. Ce qui tombait très bien à l'époque, puisqu'on était en plein déni révolutionnaire, et donc il fallait reconstruire le patrimoine religieux français qui avait été détruit par la religion. Les premiers travaux patrimoniaux se font sur les églises et sur les monuments que la Révolution avait essayé d'éradiquer. Donc, pour les Grecs, on est exactement dans le même mouvement, et ce qui vous explique que la monarchie française post-napoléonienne a accepté ça, et au contraire a encouragé et a même débloqué pas mal de fonds pour créer des organismes qui permettaient ce genre d'opération.
On redécouvre une culture du passé, on va aussi préserver des monuments sur place. C'est ce qui va se passer quand on installe ces nouvelles sociétés. Vous avez parlé de l'école d'Athènes, il y a aussi la Société française d'archéologie. Toutes ces institutions naissent en même temps. Quel est le sens de ces missions-là? Enfin, vous en avez déjà un petit peu parlé.
La Société française d'archéologie, elle prend ses racines justement dans cette volonté de restaurer un patrimoine mis à mal par la Révolution. Bon. Et c'est la redécouverte du passé français. Mais avec quand même quelques nuances, parce que le passé archéologique français, tant qu'on reste dans le domaine chrétien et dans la période chrétienne, il n'y a pas trop de confusion. Ben, si on descend un peu plus bas, on a les Gaulois, on a les Romains, c'est pas si facile que ça. Or, les vestiges de l'époque gallo-romaine sont très abondants, principalement dans la moitié sud de la France. Donc, ce n'est pas immédiat. Il faut attendre encore un peu, mais cette société a l'avantage de canaliser toutes les entreprises locales. Et ce qui fait qu'on a une archéologie nationale qui va se développer, et cette archéologie nationale, elle va connaître, au cours du XIXe siècle, une définition. Et elle va jeter les bases de tout ce qui, aujourd'hui, est patrimonial, recherche, conservation, etc.
À quel moment on parle d'archéologie à proprement parler comme une science qu'elle devient une vraie discipline
scientifique ? Au milieu du
19e. C'est au milieu du 19e.
Pour vous dire, quand on a créé pour Champollion au Collège de France une chaire, donc plutôt dans la première moitié du 19e, c'était une chaire d'archéologie. C'était quelque chose de neuf, si vous voulez. L'égyptologie, ça n'apparaîtra que 30 à 40 ans plus tard. On n'en est pas. Et le successeur de Champollion, lui-même, est là en tant qu'archéologue. Même si de Rouget faisait autre chose que de l'archéologie. Mais cette appellation est assez vague. Elle va se clarifier, justement, vers le milieu du 19e siècle, avec l'œuvre de gens comme Prosper Mérimée ou autre. C'est-à-dire qu'on commence à avoir l'idée d'un quadrillage du pays avec des responsabilités locales et surtout un encadrement qui va passer par la formation de gens aptes à l'archéologie.
Oui. Ça, c'est nouveau aussi.
Ce qui est très rare. Mm. Parce que si vous y réfléchissez, il n'y a qu'en Allemagne, où il y avait depuis déjà presque un siècle, une chaire d'archéologie. En France, ça n'existait pas encore. Ça va venir beaucoup plus tard. Et ça va venir sous le Second Empire et surtout sous la Troisième République.
Oui, parce que vous avez parlé des Britanniques comme concurrents principaux des Français, mais il y a aussi les Allemands. La Première Guerre mondiale, après, l'ordre géopolitique changera après cette guerre, mais les Allemands sont des compétiteurs.
Oui, mais c'est moins sensible du point de vue français, parce que les terrains d'affrontement ne sont pas les mêmes. Les Allemands ne défendent pas l'Empire britannique, loin de là. S'ils pouvaient le couler, ils l'auraient fait avec plaisir. Mais le Kaiser a eu une vision à l'échelle de la planète. Quand, par exemple, l'expédition de Lepsius va en Égypte sur les traces, en fait, de Champollion, là, il y a le frontispice de l'édition des Denkmäler aus Ägypten und Nubien. Le frontispice de l'édition montre une image de l'équipe allemande, l'équipe prussienne, en haut de la grande pyramide de Khéops, brandissant le drapeau prussien. C'est-à-dire qu'on a l'affirmation nationaliste, et pourtant l'Égypte ne fait pas partie des terres de conquête de l'Empire. C'est bien dire qu'il y a un combat d'image à ce moment-là. Et ce combat d'image, il est perçu très fortement parce qu'il est immédiatement répercuté dans la littérature, dans la pensée à tous les peintres orientalisants et aux œuvres qui sont restées. Le massacre de Kyo et des choses.
Et vous parlez en littérature, vous parlez de Flaubert aussi.
Oui, de Flaubert, mais pas que. Victor Hugo, tous les grands se sont penchés et il y a eu une assimilation. J'allais dire à une sorte de compétition de générosité humaniste autour des peuples opprimés. Et c'est de là que la France tient sa réputation, qui existe encore aujourd'hui, de défenseur des peuples opprimés, de la culture, pays de la liberté. Ce qui est paradoxal. Si vous pensez que la Révolution française a fait plusieurs millions de morts dans l'Europe, la liberté, c'est quelque chose de très relatif. Hein, faut pas non plus.
Quel rôle tient l'Académie des inscriptions et belles-lettres dans ces fouilles qui ont lieu
Très tôt. Dès le début. Alors, au 19e siècle, en particulier, le premier consul qui crée l'Institut privilégie de certaine façon la classe des lettres. Je vais vous donner un exemple qui rejoint l'actualité. Quand Bonaparte va soutenir... enfin plutôt guerroyer en Italie, disons les choses comme elles sont, le malheureux royaume de Sicile se fait piller, et quand il installe le roi de Naples, en cadeau propitiatoire, dit, espérons bien récupérer quelques œuvres qui ont été volées, fait un don, et il dit, voilà, je donne à la France 6 rouleaux carbonisés d'Herculanum, c'est les fameux papyri d'Herculanum. Carbonisé, c'est des petits boulins de charbon, hein, bon, très bien. Que fait Bonaparte? Il les remet à l'Institut pour l'Académie, pour notre Académie, qui est à ce moment-là la classe. Et à ce moment-là, il leur donne en disant, voilà, vous allez me déchiffrer ça. Bon, cadeau empoisonné, puisque très longtemps après, plus d'un siècle et demi après, on commence à avoir, mais avec des technologies dont ils n'avaient pas la moindre idée, on arrive à s'en sortir. Mais c'est dire qu'il y a, de la part du pouvoir en place, une volonté de promouvoir cette recherche, et c'est notre Académie qui se trouve au centre de ça, parce que c'est elle qui traite de tout ce qui est antique. Alors, à ce moment-là, l'Antiquité, ça se résout à relativement un périmètre européen. L'orientalisme ne se développe pas vraiment de façon institutionnelle. Il y a déjà des gens qui s'intéressent, mais à part l'hébreu, on ne va pas travailler beaucoup sur des langues orientales, mais ça se fait petit à petit à travers justement notre académie qui va, avec des gens comme Sylvestre de Sassy et autres, qui vont faire cette promotion, puis au Collège de France avec la création de chaires qui vont permettre d'inclure les langues orientales. Et on peut dire que l'orientalisme naît en France de ce point de vue-là. Mais voyez, tout se tient. Les choses s'imbriquent les unes dans les autres. Et alors, selon l'importance que le pouvoir politique accorde au patrimoine et au passé, on a une histoire qui est faite d'accélération et puis de ralentissement à d'autres époques.
Et un grand nombre de ces sociétés savantes donc prennent part aux fouilles. Elles bénéficient de subventions publiques étatiques. C'est dans un premier temps le ministère de l'Instruction publique qui y participe, oui. Ce qui peut paraître un peu étonnant. Pourquoi d'abord ce ministère, le ministère des Affaires étrangères participera, subventionnera un peu plus tard ? C'est d'abord le ministère de l'Instruction publique.
Et pour cause, il n'y a pas autre chose. Je vous rappelle que le ministère de la Culture a été créé pour Malraux. Donc, il n'y a pas de ministère de la Culture.
Et le ministère des Affaires étrangères arrivera, prendra la suite bien
plus tard. Le ministère des Affaires étrangères, ce n'est pas son travail. Le ministère des Affaires étrangères peut à la rigueur aider au financement d'expéditions, mais dont les objectifs sont diplomatiques ou militaires, mais pas scientifiques. Le secteur scientifique naît en 1936 avec le Front populaire, où là, dans la foulée des grandes réformes du Front populaire, on décide de créer une section d'archéologie dans le nouveau CNRS que l'on vient de créer. On dit, voilà, on va faire de l'archéologie. Très bien, on ne peut que s'en réjouir. Malheureusement, le CNRS dit, ben, oui, l'archéologie nationale, ça je peux comprendre, mais archéologie hors de métropole, on n'a pas les moyens, on n'a pas les personnes, on n'a pas la structure, etc. Bref, il y a un mouvement qui commence à se dessiner pour que ça glisse vers les affaires étrangères. Puis la guerre vient, donc tout est gelé, on repose la question plus tard à la Libération. Et là, deux hommes qui ont appris à s'apprécier, c'est Henri Seyrig et Charles de Gaulle, oui. Qui avaient compris l'importance que pouvait avoir dans le dispositif une présence forte de la France, à la fois pour l'image traditionnelle de la France, mais en même temps comme outil de travail avec les pays partenaires, décide que les affaires étrangères vont faire une place particulière à cette 16e section du CNRS qui migre vers eux. Alors évidemment, le CNRS a donné le travail, mais il n'a pas donné les postes, il n'a pas donné les sous, donc bon, il faut se débrouiller. Et là commence un travail qui est unique au monde, où actuellement, bon, à partir de la définition actuelle, actuellement la commission des fouilles, c'est un peu moins de 40 spécialistes, qui se réunissent, qui sont en 5 sous-commissions, une par continent, et qui travaillent sous l'autorité d'un secrétaire général. Et ces spécialistes sont triés sur le volet, pour l'avoir fait pendant un certain nombre d'années, je peux vous assurer qu'ils sont vraiment bien choisis. Et ils travaillent gracieusement. C'est-à-dire qu'ils viennent, ils sont pas rétribués, et ils reçoivent des dossiers de candidats qui demandent un financement et un appui. Donc en gros, il y a chaque année 200 dossiers à peu près qui sont examinés, d'où sortent 160, 150, ça dépend, missions, qui sont financées. Mais qui sont financées, en quelque sorte, presque hors budget. Aujourd'hui, c'est rattaché au budget de la mondialisation, mais à l'origine, c'était flottant. Il n'y a pas de statut, il n'y avait pas de... Bon, alors l'administration, et essentiellement Bercy, essaye régulièrement de normaliser pour tout faire rentrer dans des cases. Et bon, mais ça les archéologues sont très, très rebelles. Et aujourd'hui encore, il n'y a pas de statut. Il y a toujours des essais, mais il n'y a pas de... Ça fait 80 ans que ça dure et il n'y a pas de statut. Mais il y a un fonds, une sorte de poche, si vous voulez, qui n'est pas énorme. Aujourd'hui, ça doit tourner à peu près autour de 2 millions d'euros, ce qui est rien pour 160 missions. Mais ça permet de financer, de donner, disons, un tiers des subsides dont ont besoin chaque mission. À charge pour les missions de compléter avec les deux autres tiers. Mais surtout, ce que ça apporte, c'est une évaluation scientifique qui, avec le temps, ne peut pas se faire ailleurs. Alors, ça génère des conflits avec l'archéologie nationale, bien évidemment. Qui est le plus costaud, qui doit l'emporter, bon. Mais cette structure, qui est relativement informelle, en fait, constitue un réseau qui est extrêmement dense et qui peut venir en aide au réseau politique. Par exemple, nous avons été pendant 13 ans, 14 ans, coupés de la Syrie. où notre gouvernement n'avait pas de relations diplomatiques avec la Syrie. Mais on a 12 programmes en Syrie. Alors, on ne pouvait pas travailler, puisque les Français n'avaient pas le droit d'aller y travailler, mais le réseau que nous formons a permis d'encourager des collègues à continuer à travailler, faire divers... C'est-à-dire qu'on a une sorte d'international des chercheurs qui fonctionne parfois un peu sous le radar, mais qui fonctionne bien. Parce qu'elle repose sur des relations personnelles, chacun se connaît, on connaît les œuvres des uns, des autres, etc. Et il y a une sorte de fraternité qui se fait. Et ça, alors c'était peut-être pas ce que le législateur envisageait au début, mais de mon point de vue, c'est un résultat extraordinaire. Ouais. C'est une vraie réussite.
J'en reviens aux origines de cette coopération, enfin ce mouvement qui a été lancé entre Charles de Gaulle et Henri Seyrig. Charles de Gaulle, pas besoin de le présenter. Henri Seyrig, il est peut-être un peu moins connu du grand public. Il est considéré comme le père de l'archéologie syrienne.
Il n'a eu qu'un seul enfant qui soit célèbre, c'est Delphine. Delphine Seyrig, célèbre comédienne, était sa fille.
J'ignorais que c'était...
Si, c'est la même famille. Et Henri Seyrig... Il a un parcours qui est intéressant, parce qu'à l'origine, il s'est engagé aux Dardanelles, où là, il a fait la guerre de 14, il a été décoré pour bravoure, etc., mais il n'avait pas grand-chose à voir avec l'archéologie. Mais à l'occasion du conflit des Dardanelles, il a découvert le patrimoine historique grec. Et du coup, il s'est mis à faire les études qui lui manquaient, il s'est présenté à l'école d'Athènes, il est devenu un archéologue, mais c'était déjà une sorte de guerrier héroïque, si vous voulez. Et il avait cette double expérience de la guerre, de la souffrance dans sa chair, et du fait que les enjeux diplomatiques et historiques se transcrivaient dans de l'humain, que c'était pas quelque chose d'arbitraire, et en même temps une passion très grande pour la culture classique. Et il a trouvé en Syrie un terrain qui lui permettait de naviguer dans cette culture. Il ne faut pas oublier que les grands sites de Syrie, je parle des sites qui sont, disons, plus tardifs, vous avez beaucoup de sites d'époque hellénistique et romaine. Il y en a de plus anciens, bien évidemment, mais cela retenait l'attention de Seyrig. Et quand Seyrig et De Gaulle se sont connus, il y a eu entre les deux hommes un contact très fort qui s'est établi. Probablement parce qu'ils avaient tous les deux la culture et l'expérience du combat et du courage. Et ils ont décidé ensemble, en fait, c'est à eux deux, de la création de cette commission des fouilles. Et du coup, Henri Seyrig, qui était devenu un grand professionnel de l'archéologie, s'est vu confier la partie du mandat qui revenait à la France, qui était la Syrie, et qui était le service des antiquités qu'il a créé. Et il l'a créé sur le modèle d'une autre et sur le modèle de ce qui avait été fait en Afrique du Nord. Et qui avait été fait aussi en Égypte, puisque la France avait récupéré le même modèle et gardé... Bon. Donc, vous voyez, il y a une logique sur tout le Maghreb et le Mashrek, et puis jusqu'en Mésopotamie, la présence française dans ce domaine de l'archéologie était justifié simplement par l'histoire et par la compétence, puisqu'on était les promoteurs de tout, et Seyrig lui-même a développé un système, parce que c'est bien beau de faire des fouilles, mais il faut conserver, il faut protéger, il faut publier, etc. Et il a lui-même fait tout ça, c'est-à-dire qu'il a créé des services de publication qui font qu'aujourd'hui encore, nous occupons dans la place des pays comme dans le cœur des Libanais, des Syriens ou autres, une place extrêmement à part, et avec une coopération très forte. C'est-à-dire qu'on a toujours des contacts intenses avec les collègues, et ça se retrouve, par exemple, dans la francophonie.
Les deux sont liés, bien sûr.
Et vous comprenez, on se rend compte qu'en fait, l'archéologie est une tesselle merveilleuse dans une mosaïque beaucoup, beaucoup plus vaste. Et que le fait que cette tesselle soit en place permet des connexions qui peuvent être utilisées, alors bien ou mal, ensuite, ça c'est la politique, c'est pas mon rayon, mais qui sont existantes. Alors parfois, quand je dis que c'est pas mon rayon, on est parfois un peu triste de voir les mauvaises utilisations qui peuvent en être faites, mais certaines sont excellentes et ont de bons résultats. Et donc, Seyrig, alors, les assyriologues lui vouent presque un culte, mais on devrait célébrer Henri Seyrig. Notre académie avait plus que des connexions avec lui, donc on peut tout à fait... Faudra que je vois si on va pas faire une célébration un de ces jours.
Et comment s'est déroulée cette coopération avec les pays hôtes? Est-ce que des équipes locales d'archéologues participent, travaillent aujourd'hui?
Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, il n'y a pas de fouilles qui soient uniquement françaises. Toutes les fouilles sont mixtes. C'est-à-dire une des conditions que met la commission des fouilles. Il faut qu'il y ait de préférence une fouille bicéphale. Ce n'est pas toujours possible, parce qu'on n'a pas toujours des pays qui ont les infrastructures. Mais on essaie de complémenter avec de la formation. C'est-à-dire qu'on encourage toujours un volet de formation très fort. Qui fait que l'idée est d'arriver à ce que, à terme, les pays puissent prendre en main leur propre patrimoine sans passer par un autre pays. Ça veut dire aussi qu'il faut qu'il y ait une relation de confiance très forte. Et ça veut dire aussi qu'il faut que l'archéologie arrive à se tenir à l'écart de tout courant nationaliste, ce qui n'est pas facile. Parce que bien souvent, les pays viennent vers nous en disant « Ah, mais attendez, nous sommes les légitimes, il faut nous... » C'est un peu compliqué. Bien alors là, pour nous, c'est facile, on passe la main aux politiques et puis ils se débrouillent. Mais parfois, c'est un peu limite. Et on peut avoir des pressions, effectivement. Mais l'idée, c'est de rester sourd à ces pressions et aller au-delà.
Vous avez nommé votre livre donc l'archéologue et le diplomate. Ce qui saute aux yeux avec ce titre, c'est que c'est deux professions qui renvoient à des activités contraintes par des échelles de temps assez différentes. Elle est très courte, plus courte pour le diplomate, un peu plus longue pour l'archéologue. Le modèle français, on peut dire qu'il réussit à transcender cette friction.
C'est pas une friction. J'ai travaillé. Ce petit livre, c'est à peu près un demi-siècle d'expérience. J'ai travaillé avec beaucoup de diplomates. D'ailleurs, avec tous, j'ai gardé des liens d'amitié. Oui, un diplomate en poste dure 3 ans, à peu près.
Donc, c'est court.
Ça tourne. Mais je veux dire, il est là pour tenir une position et elle ne lui appartient pas. Donc, il transmet. Alors, certains étaient plus intéressés, d'autres moins, bien évidemment. Mais c'est l'avantage de cette commission des fouilles. Elle a une durée. Il y a, dans la direction de la commission des fouilles, en fait, il y a un double pouvoir, si vous voulez. Il y a un diplomate, qui généralement est un conseiller culturel, qui ne passe que 3 ans à Paris, parce qu'ils sont entre deux postes. Bon. Et puis, il y a les vieilles barbes comme moi, qui sont là, qui restent des années. Donc, on est un peu la mémoire de ça. Et en même temps, je vois par exemple, comme par un fait exprès, beaucoup de sites archéologiques importants sont dans des pays en crise. Donc l'archéologie, parfois, peut prendre, je pense à l'Afghanistan, un pays comme ça, une importance capitale. Alors souvent, maintenant je ne sais pas ce qu'il en est, mais à mon époque, les ambassadeurs partant en poste venaient prendre le café dans mon bureau généralement, ce qui permettait de parler, de les mettre au courant, parce que tous n'étaient pas forcément au courant des situations, et en même temps de faire un peu de réseautage avec eux. À chaque fois, ça fonctionnait bien, même dans des pays en grave crise. C'est pour ça que je parlais de l'Afghanistan. Et en crise récurrente. L'Afghanistan, on n'en est pas à la première crise, et ça recommence, etc. Mais les réseaux qu'on a établis il y a maintenant une trentaine d'années nous ont permis, par exemple, de travailler avec Langzo à la création d'une chaire pour l'éducation des femmes, etc. Enfin, toutes sortes d'opérations qui ne relèvent pas de l'archéologie, mais qui relèvent de la culture, qui relèvent de l'enseignement, qui relèvent... Vous savez, l'archéologie, c'est pas avoir une truelle et gratter le sol. C'est beaucoup plus vaste que ça.
Non, ça, c'est un peu l'image d'Épinal qu'on a, voilà. Mais c'est
mais
assez
Mais comme
différent.
Tout, ça repose souvent sur des relations humaines. Il faut trouver le bon partenaire.
Dans ce livre, vous citez aussi les grands noms de l'archéologie française. Paul-Émile Botta, Jules Moll, Auguste Mariette et puis Gaston Maspero. Vous avez débuté votre carrière dans les années 70 aux côtés de Jean Vercouter. Mais, qui était également...
Enfin non, j'étais élève de Jean Leclan, mais comme jeune chercheur
sur le terrain,
j'ai eu comme directeur Jean Vercouter.
Qui était également membre de l'Académie des inscriptions. Lui a bénéficié de méthodes plus modernes que ses prédécesseurs. Qu'est-ce que vous avez appris à ses côtés ?
Jean Vercouter avait fait toute sa carrière au Soudan. Et puis, malheureusement, Serge Sonneron s'étant tué dans un accident de voiture, on a manqué un petit peu de personnel et on lui a demandé de venir diriger l'Institut français. Ce qu'il a fait pendant 4 ans, c'est l'époque où moi j'étais un de ses pensionnaires. Donc on a eu la même durée ensemble. C'était un homme, un bon archéologue, qui avait un bon coup d'œil, mais qui ne connaissait pas vraiment bien l'Égypte.
Ouais.
C'était pas son terrain. Mais là où nous avons travaillé, dans le désert de Libye, Là, il avait un terrain qui lui rappelait le Soudan, et avec on travaillait sur des installations au Moyen-Empire. Bon, il était un peu chez lui. Et il l'aimait beaucoup, en particulier le site de Balat, sur lequel j'ai travaillé longtemps. Il l'aimait beaucoup. Mais il était un peu... C'était déjà un peu trop tard. C'est-à-dire qu'il ne fouillait plus, oui. Il fouillait plus lui-même. Il venait, puis il regardait, puis il repartait. Mais il a toujours accueilli avec bienveillance. C'est-à-dire qu'on n'a pas été embêté, au contraire. J'ai appris peut-être l'amour du désert, oui. Parce que c'est clair qu'il l'aimait. Quand on en parlait, quand il nous accompagnait, il fallait faire... Dans le désert, dans le sable, il fallait faire 3 km pour aller jusqu'au site. Donc, vraiment, il venait à pied, mais il revenait en Land Rover parce que c'était un petit peu loin. Mais c'était l'occasion de discussion, justement, sur son... Puis j'ai eu à travailler avec ses équipes par la suite.
Aussi.
Et à veiller à la publication, comme disent les Allemands, de son Nachlass, de ce qu'il a laissé, son héritage, de ce qu'il a laissé derrière lui.
Alors, on comprend bien que aujourd'hui notre pays, la France, jouit d'une image scientifique assez positive dans la recherche archéologique. La France distribue d'ailleurs chaque année le Grand Prix d'archéologie d'El Duca, qui est remis sur proposition de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. C'est le prix le mieux doté au monde. C'était. Ça a changé ?
Ça va changer.
Ça va changer. Alors, comment ça ? Expliquez-nous.
Alors, le prix Simone Echino del Duca était doté, il y a quelques années, de 200 000 euros.
Oui.
Puis il a été réduit, je pense, pour permettre d'utiliser ces sommes à autre chose.
À 150 000.
À 150 000. Et il était, jusqu'à cette année, effectivement, le prix le mieux doté. Et puis, nous sommes en train de créer une fondation avec une généreuse donatrice dans notre académie et qui va nous permettre de donner 200 000 euros chaque année. Mais avec, pas seulement de l'archéologie, disons de l'archéologie et des nouvelles technologies, enfin pour toutes sortes de choses. Alors je ne peux pas révéler, pour l'instant c'est en analyse au Conseil d'État, donc je ne peux pas,
rien
dire, mais je pense que nous pourrons dès cet automne décerner ce prix. Mon idée est de monter les études patrimoniales et archéologiques à un niveau, je veux dire, pas égal à celui des sciences de la vie et de la Terre. On n'a pas les mêmes objectifs, les mêmes intérêts, ce ne serait pas raisonnable, mais de les valoriser plus qu'elles ne le sont. Car ce sont des études qui demandent une pluridisciplinarité très vaste. Ça va jusqu'à l'énergie atomique. Enfin, on a vraiment... aujourd'hui, les analyses de C14 se sont beaucoup complexifiées, c'est beaucoup plus difficile, ça met en cause beaucoup plus de valeur. Les études de datation, études calendériques, en même temps, on travaille beaucoup avec des astrophysiciens, etc. Donc, on est vraiment dans des domaines qui utilisent les sciences de pointe et qui sont appliquées, justement, à la connaissance du passé. Donc, c'est dans cet esprit-là que j'essaie de développer cela. Mais l'Académie donne déjà des prix conséquents, un certain nombre de prix conséquents, mais qui sont généralement liés à des fondations plus limitées. C'est-à-dire qu'on donne des prix de 10 000 euros ou autres, qui sont prestigieux, mais qui, évidemment, n'ont pas la... Avec des sommes aussi élevées, vous avez la possibilité d'avoir une action réelle sur la recherche. Donc d'influer ou d'aider des manques. Or, nous le savons, la puissance publique n'a plus les moyens de financer correctement les choses. On le voit, il se trouve que les 5 grandes écoles françaises à l'étranger sont sous notre tutelle scientifique, donc nous suivons leur devenir avec parfois inquiétude, parce qu'on s'aperçoit que quand une institution de recherche consacre 5% de son budget à la recherche, c'est quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est absolument clair. Alors, je n'ai pas la prétention de corriger des erreurs ou de juger, mais aider, oui, on peut arriver à le faire. Et j'ai la chance d'avoir une académie dont les membres sont tous de grands spécialistes, de grands connaisseurs. On a ouvert, avec l'avenue de Dominique Michelet, que vous avez ou que vous allez interviewer, je pense, bientôt, on a fait entrer les études méso-américaines. Donc, on essaie de développer, à l'échelle du globe, ce réseau de connaissances. Parce que sinon, personne ne le fera. Si nous ne le faisons pas, nous, il ne se passera rien. Donc, on essaie de le faire. Et je veux dire que c'est très enthousiasmant, d'ailleurs.
Et bien, écoutez, merci beaucoup, Nicolas Grimal.
Je vous en prie.
Donc, secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, pour les auditeurs qui souhaitent approfondir le sujet, je les invite à lire donc, L'archéologue et le diplomate, votre dernière parution aux éditions Les Belles-Lettres. Et je rappelle que vous serez également donc, en dédicace mardi prochain, le 8 avril, à l'Institut de France. L'inscription est ouverte, gratuite, et on mettra toutes les ressources sur notre site. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Les podcasts de l'Institut de France.